mercredi 14 juin 2023, bienvenue au journal en français du studio Kalangou. À présent, les titres. Le ministre de la Justice était dans la région de Dosso le week-end dernier. Il a déclaré vouloir une justice équitable et appelle au changement des méthodes pour une justice rapide pour tous. Les détails dans ce journal. Dans le cadre de la prévention des conflits en cette saison des pluies, le code rural organise à Maradi des sensibilisations dans les villages. Enfin, la partie magazine va porter sur l'intérêt et l'affluence des puissances internationales pour la région du Sahel. Bonsoir à tous. Plus de 1000 pèlerins nigériens risqueraient de ne pas disposer des visas pour le Hajj cette année. L'annonce a été faite hier à Niamey par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah Koho. Selon le responsable de cette institution, tous les fonds dédiés aux prestations soudaniennes qui entrent dans le processus de l'émission des visas ont été intégralement effectués pour les 15 891 pèlerins qui constituent le quota du Niger. Ibrahim Kaigama appelle les chefs d'agence de prendre toutes les dispositions face à cette situation. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par nos confrères de la radio et télévision Labari.
Après l'alimentation des comptes IBAN des groupes d'agences, normalement, rien ne doit entraver la procédure d'émission des visas, malheureusement. En faisant le point ce matin de l'ensemble des visas émis, je relève que sur les 15 891 qui constituent le quota du Niger, les chefs de groupes d'agences n'ont pu émettre que 14 492 visas. 1389 visas sont encore en suspense. Pour parler terre à terre, c'est 1399 pèlerins nigériens qui ont payé leur hajj auprès de certaines agences risquent de ne pas avoir de visa, car ces dernières n'ont pas signé de contrat avec les prestataires saoudiens, ce qui conditionne l'obtention du visa. Et de ce fait, n'ayant pas payé ces visas, ces prestations saoudiennes, ces pèlerins ne pourront pas effectuer le hajj. Nous lançons un appel à ces groupes d'agences, à ces chefs d'agence, de faire diligence pour finaliser au plus tôt le processus de transfert avant la date butoir de clôture des visas fixée par l'autorité saoudienne.
En ce jour, 14 juin, le monde entier célèbre la Journée mondiale du donneur de sang. Cette manifestation permet de remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles du geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang. Au Niger, l'association des scouts est l'une des rares structures qui donne encore du sang de manière régulière. Pour le commissaire général, c'est leur manière de contribuer au développement du pays. Ali Oumarou, au micro de Habib Garba.
Lorsque vous savez consciemment que donner du sang, c'est sauver des vies, vous n'allez pas hésiter à donner du sang. Lorsque vous savez que des forces de défense et de sécurité qui se battent, qui prennent des balles à notre place et qui souvent meurent à cause d'un manque de sang, vous ne pouvez pas rester indifférent. Donc pour toutes ces raisons, l'association des scouts du Niger mobilise chaque semaine 6728 membres, parmi lesquels 80% sont des donneurs, puisque nous avons aussi les enfants qui ne donnent pas. Donc ceux qui ont 18 ans et plus représentent 80%. C'est à peu près 5000 donneurs. Même si on n'extrapole pas, multiplié par 8, on a au moins 40 000 donneurs. Et je pense que ce n'est pas trop. Et nous devons encore faire plus et la communauté doit nous soutenir dans ce combat noble. Inch'Allah, à partir du 20 juin, avec l'Organisation mondiale de la santé, nous allons organiser une très grande cérémonie de don de sang au centre même des scouts. Et nous avons décidé ensemble de faire ce lancement officiel dans notre centre le 20 prochain. Et à partir du lancement officiel, toutes les régions scouts vont suivre.
Comme je le disais dans les titres, le ministre de la Justice a effectué le week-end dernier une visite à Dosso. Il a profité pour visiter le tribunal et les centres pénitentiaires de Bindengaouré et de Dosso. Ikta Abdoulaye Mohamed a déclaré que les magistrats doivent être équitables comme le souhaitent tous les citoyens. Il est au micro de Aoussi Abdraman.
Ce que j'ai à dire à la justice, c'est que je voudrais que la justice occupe sa place, qu'elle soit juste, équitable et rapide. Rapide dans ce sens que la loi a tout déterminé et que les magistrats doivent s'inscrire dans le respect de la loi comme ils l'exigent de tous les citoyens. Je voudrais que les méthodes changent. Je voudrais que chacun, en passant dans un tribunal, qu'il sorte content, condamné ou libéré, qu'il sorte content, qu'il sente que c'est la loi qui a été appliquée. Voilà un peu mon approche.
La situation sécuritaire commence à se stabiliser dans la commune de Maïné-Soroa. La bonne collaboration entre les forces de sécurité et les communautés ont beaucoup contribué à cela. Le chef de canton de Maïné-Soroa, El Hadji Abdou Gasso Katchelou Katchella, lance un appel pour que cette collaboration continue pour la paix durable dans la commune. Il est au micro de Maman Idrissa.
Il n'y a aucun problème entre les forces de défense et de sécurité et la population. La cohabitation est sans reproche. La collaboration est exemplaire. Certes, au début, il y avait une sorte de méfiance, mais suite aux sensibilisations, il n'y a plus de problème. Aujourd'hui, tout est décrispé. Les FDS, tout ce qu'ils entreprennent, c'est dans la parfaite compréhension. L'appel que je lance aux deux parties, c'est d'avoir une confiance réciproque et établir un respect mutuel, que les FDS respectent les citoyens de la ville et que les citoyens de la ville aussi respectent les forces de défense et de sécurité. Si cela est établi, aucun problème ne surviendra.
Avec l'installation progressive de la campagne agricole au Niger, les structures du code rural s'attellent à sensibiliser les acteurs ruraux afin de prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Pour Gallo Bagadje, le secrétaire régional permanent du code rural pour la région de Maradi, plusieurs missions sont assignées aux structures déconcentrées. Pour l'heure, aucun écho de conflit. Il est au micro de Mohamed Maman.
Les missions qui sont assignées aux institutions du code rural, c'est vraiment l'organisation de forats d'information, sensibilisation dans le cadre de la prévention de conflits et aussi de la sécurisation foncière. Par exemple, si vous avez votre espace, votre champ, c'est de pouvoir détenir l'acte qui dit que ça vous appartient, ou bien vous les prêtez, avoir l'acte qui dit voilà dans quelles conditions vous allez prêter, où vous avez logé ou la mise en gage. Donc tous ces actes-là sont sollicités au niveau des villages auprès des utilisateurs de champs agricoles. C'est aussi de côté des ressources partagées, par exemple les couloirs de passage, les aires de pâturage. Là où ça existe, donc on informe les gens pour que ces espaces-là soient réservés comme tels, c'est pas les champs, en tout cas pour que les gens ne puissent pas occuper une partie de ces champs-là.
16 journalistes des 8 régions du Niger suivent une formation en sécurité du 13 au 16 juin 2023 à l'école de la police de Niamey. L'objectif est d'outiller les journalistes sur les dispositifs nécessaires pour assurer leur sécurité dans les médias sur le terrain, ou aussi d'encourager les journalistes, surtout les femmes, à dénoncer toute forme d'agression verbale et physique. Aminatou Nouma, chargée de programme d'APAC Niger, au micro de Guy Diabdraman.
Cette formation, nous l'avons organisée afin de renforcer les capacités des journalistes en sécurité, car nous savons tous que de nos jours, l'insécurité est permanente dans certaines régions du pays. Les journalistes sont appelés à partir dans ces zones où il y a l'insécurité. Donc, ils doivent savoir comment se préparer avant de partir, comment se protéger une fois là-bas. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de contribuer à la promotion de la liberté de la presse en garantissant la sécurité des journalistes à travers des techniques adaptées. Pour cette formation, nous avons lancé un appel à candidature nationale et nous avons reçu des 8 régions du pays. Nous en avons sélectionné 16, dont 9 femmes et 8 hommes. Il y a 9 participants de Niamey et 7 participants des autres régions. Comme particularité, c'est une formation quasi pratique.
Cérémonie de vernissage ce matin à l'Université de Niamey de l'ouvrage en hommage au professeur émérite Bourema Alpha Gado. Il a passé 30 années d'enseignement et de recherche à l'Université Abd Moumouni de Niamey, puis fut le premier recteur de l'Université Boubacar Ba de Tillabéri. Suivant professeur Amadou Seibou Adamou au micro de Fatima Almiarou.
Ce sont des témoignages, c'est aussi la biographie de l'homme qu'on décline. Et c'est surtout un ouvrage qui a été publié en hommage à l'homme, au scientifique qu'il a été et qu'il reste définitivement. Cet ouvrage est intitulé « Sahel, crise et résilience, regard croisé sur un espace en mutation ». C'est un ouvrage qui réunit 40 auteurs. Et parmi ces 40 auteurs, 36 articles ont été produits scientifiquement. Et la dernière leçon, ce qu'il faut tirer de cet ouvrage, c'est que cet ouvrage montre du doigt aux jeunes chercheurs qui vont venir les pistes à suivre, les perspectives. Il ne s'agit pas de se contenter de ce que Bourema a produit, de ce que ses collègues ont produit. Il faut voir d'autres horizons. Le Sahel est confronté, vous le savez, à tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a connus hier, mais certainement qu'on va connaître demain. Il faudrait que la science s'implique et qu'elle puisse éclairer les chemins.
La campagne électorale pour les élections partielles de la diaspora se déroule globalement dans le calme et dans une ambiance festive à tous les carrefours d'Abidjan. Les partis politiques et candidats ont pour la plupart opté pour la stratégie des affiches dans les villes, les villages et les cortèges. Quelles sont les dispositions prises par la CENI pour des élections libres et transparentes? Ali Odaouda, président de la commission électorale de la Côte d'Ivoire, au micro de Tila Amadou.
Nous avons réceptionné le matériel électoral en provenance du Niger. Nous avons, sur accord entre la CENI du Niger et la CEI de la Côte d'Ivoire, réceptionné des urnes et des isoloirs. Nous avons réceptionné 160 urnes, 160 isoloirs, bien que nous avons 133 bureaux de vote. On a pris en réserve, c'est ce que la CENI du Niger a demandé. Et la CEI de la Côte d'Ivoire a mis tout ce matériel à notre disposition. Maintenant, tous les membres de la commission ont prêté serment. Hier, nous avons procédé à l'identification des centres d'enrôlement et de vote de la ville d'Abidjan. Maintenant, nous sommes dans la phase de réception des délégués, des présidents et secrétaires des bureaux de vote des différents partis en compétition qui sont au nombre de 10.
Place au magazine de cette édition. L'Afrique, particulièrement le Sahel, fait l'objet d'une affluence des puissances étrangères depuis quelques temps. Beaucoup de ces pays ont annoncé des investissements importants et appuis financiers à l'endroit des pays du Sahel. Selon Lagrange Fidel, fondateur et directeur exécutif du laboratoire de recherche et d'action diplomatique, ce ne sont pas les beaux yeux des Africains qui attirent ces pays, mais plutôt leurs richesses et leurs ressources. Il a été interrogé à Washington par notre reporter Ahmed.
Lorsque vous voyez l'Europe qui met à disposition pour les 5 années à venir 155 milliards, c'est pour leurs intérêts d'abord. Aujourd'hui, les États-Unis ont promis également, je crois, 55 milliards, mais c'est également pour leurs intérêts. À nous, Africains, de rechercher les voies et moyens pour que ces investissements puissent également profiter à nos populations à travers la résolution de la problématique de l'emploi pour les plus jeunes générations.
Le Sahel, aujourd'hui, suscite l'intérêt des grandes puissances, à savoir la Russie, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela?
L'Afrique et particulièrement le Sahel est très riche en ressources humaines déjà, riche en ressources du sol, en ressources du sous-sol, riche de son climat. C'est cela qui attire en fait les partenaires étrangers, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit les pays arabes du Golfe. Ce sont ces richesses-là qui les attirent. Ce ne sont pas les beaux yeux des Africains. Quand vous prenez un pays comme la Turquie, qui a 30 représentations dans le Sahel, sur les 43 en Afrique, il y a de quoi se poser des questions. Et il y en aura au fur et à mesure d'autres qui vont s'ajouter. Mais cela ne viendra pas régler nos problèmes. Ces partenaires viennent pour leurs intérêts et pour leurs débouchés. Il appartient à nous autres Africains de voir comment est-ce que cela devra également être bénéfique à l'Afrique.
Les États-Unis d'Amérique invitent les leaders africains à Washington pour le forum USA Afrique. Il y a des présidents parmi eux qui sont démocratiquement élus. Il y a des présidents qui sont arrivés au pouvoir par des voies non démocratiques. Est-ce que cela veut dire que les États-Unis ont rectifié les tirs par rapport à leurs exigences de coopération envers l'Afrique?
Le porte-parole du département d'État disait que ce sont leurs intérêts qui priment. Lorsque leurs intérêts sont en jeu, ils essaient de se repositionner stratégiquement, ils essaient de revoir un certain nombre de décisions. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une guerre de leadership au niveau mondial. Donc, il faut rapidement réaménager et revoir ces stratégies pour pouvoir conserver le leadership mondial. Parce que les États-Unis sont un pays, l'Afrique c'est un continent. Nous aurions bien voulu que l'Afrique aille d'une même voie, en parlant le même langage. Lorsque vous suivez les débats au niveau des Nations Unies, toutes les fois où, sinon 90 à 95% des fois où les pays africains ne sont pas unis, ils perdent. Mais lorsqu'ils sont unis, les autres partenaires et les autres puissances revoient leur stratégie et reviennent à moins de pression.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. C'était Rafika Taher à la présentation. Restez à l'écoute après les journaux en langue nationale. Suivez le forum en français, une coproduction des studios Kalangou, Tamani et Yafa sur l'accès à l'eau au Sahel. Quelle solution? Et c'est dans une présentation de Nafissa Adamou.